Bienvenue à toutes et tous, c'est Sylvia Micon et vous écoutez Impact Positif. Une seule promesse pour ce podcast, partager le parcours de personnes inspirantes. Qu'ils soient entrepreneurs, simples citoyens, artistes, scientifiques, ils ont un impact sur la société, sur l'environnement, ils agissent, ils font, ils ont des solutions, les voici.
Le récit, depuis le début de l'histoire de l'humanité, nous a inspirés. On s'est construit par des histoires qu'on nous a contées. Et ces histoires-là ne sont pas juste des histoires pour endormir les enfants le soir. Ce sont des histoires qui sont inspirantes, qui nous poussent à nous dépasser, qui nous servent de modèle. Et donc, il n'y a pas de raison qu'on ne mette pas ces récits au service d'un monde plus juste, meilleur, plus sain. Pour s'inspirer et se dire que c'est possible et pour se donner la force de se dépasser.
Lucie Lucas est comédienne. Elle est Clem sur TF1. Mais dans la vie, Lucie Lucas habite dans une ferme avec sa famille. Engagée pour la sauvegarde de la biodiversité, elle a décidé d'être en cohérence avec ses convictions. Elle a surtout décidé de mettre sa notoriété au service de ses engagements. Sur les réseaux sociaux, elle partage son expérience au quotidien avec sa communauté et alerte sur les conséquences du réchauffement climatique. Une position pas toujours facile à défendre, mais face aux attaques, elle tient bon et se concentre sur l'essentiel, le bonheur et l'apaisement par la nature et la construction d'un nouveau récit par le biais de son métier. C'est l'épisode 52 d'Impact Positif que vous retrouvez sur toutes les plateformes et sur lci.fr. N'hésitez pas à vous abonner et à nous noter pour faire grandir ce média. Impact Positif, un diamant. Lucie Lucas, bonjour.
Bonjour Sylvia.
Merci beaucoup de participer à Impact Positif. On est ravis de pouvoir discuter avec vous. Vous êtes comédienne, le grand public vous connaît pour votre rôle dans Clem sur TF1. La nouvelle saison vient d'ailleurs de démarrer, mais ce n'est pas pour cela qu'on vous a invité aujourd'hui, plutôt pour parler de vos engagements. Vous essayez d'alerter sur les conséquences du changement climatique, la reconnexion au vivant, la sauvegarde de la biodiversité. Vous avez d'ailleurs choisi de vous aligner, d'aligner votre vie avec votre cause. Vous avez quitté Paris pour vous installer à la campagne il y a 2 ans. On va y revenir. Et puis vous êtes depuis pas très longtemps porte-parole d'On est prêt, c'est ce mouvement citoyen qui organise des campagnes ciblées sur les réseaux sociaux. On les a d'ailleurs invités la saison dernière dans Impact Positif, on va y revenir aussi. Mais tout d'abord, Lucie Lucas, je viens de décrire votre engagement. Est-ce qu'il est issu d'une longue prise de conscience? Est-ce que ce sont des événements, des déclics qui vous ont fait prendre conscience de ces enjeux? Quel est votre cheminement?
Merci pour la présentation.
Ça vous va?
Oui, merci beaucoup. La prise de conscience, elle se fait pas d'un coup d'un seul. C'est vrai que j'ai eu une enfance où mes parents m'ont vraiment sensibilisée à la beauté du monde, de la nature, à la complexité, du système Terre. Et puis aussi au respect de l'autre, en fait, tout simplement. C'est vrai que si on place le respect dans tout ce qu'on fait, logiquement, on a envie de prendre soin. C'est vrai que moi, j'étais vraiment concentrée sur les injustices sociales. Et c'est en devenant maman que là, j'ai vraiment pris le temps de me renseigner sur le monde qui m'entoure. Et où là, j'ai vu qu'il y avait une urgence énorme dont on me parlait dans les magazines pour enfants quand j'étais petite, mais on n'en parlait pas du tout avec les mêmes alarmes. Et où je me suis rendu compte aussi qu'en plaçant l'écologie et le respect au cœur de tout, peut-être qu'on pouvait aussi diminuer fortement les inégalités sociales. Donc je me suis concentrée particulièrement sur l'écologie.
Alors vous êtes installée depuis 2019 à la campagne dans une ferme pédagogique en permaculture. C'est un sacré changement de vie. Comment est-ce que cela s'organise concrètement dans votre vie alors que vous vous absentez aussi pour vos tournages? Comment jonglez-vous avec tout cela? Est-ce que c'est vous qui concrètement vous occupez des animaux, des potagers? Est-ce que vous supervisez? On imagine aussi que c'est tout un apprentissage. La terre, ça ne s'apprend pas du jour au lendemain. Comment ça s'organise tout ça?
Ça, c'est sûr. Alors déjà, il y a eu cette envie vraiment de partir vivre à la campagne, de gagner en autonomie pour notre famille, de transmettre des valeurs naturelles à nos enfants. Le temps de trouver l'endroit parfait où il y aurait de l'eau, du bois, de la prairie, ça nous a pris beaucoup de temps. On a sillonné toute la France et donc ça a pris 5 ans. Et donc pendant 5 ans, on a vraiment pour essayer de calmer notre frustration à ne pas pouvoir déménager tout de suite. On s'est plongé dans plein de podcasts, dans plein de documentaires, dans des livres. Et donc, on a beaucoup travaillé en théorie. Et puis après, quand on a déménagé et qu'on s'est retrouvés dans notre potager, on s'est rendu compte qu'on avait hyper hâte d'expérimenter et de mettre les mains dans la terre, mais qu'on, finalement, toute la théorie qu'on avait accumulée ne nous servait pas forcément pour ce terrain-là en particulier, et qu'il fallait s'adapter et qu'il fallait apprendre sur le terrain. Et donc, on a la chance de travailler avec quelqu'un qui s'appelle Pascal, qui connaît très bien ce terrain puisqu'il y travaillait avant qu'on arrive, et qui a toujours cultivé sans chimie, en fait, et en travaillant avec la lune notamment. Et il y a des calendriers lunaires super intéressants et super efficaces pour notamment le jardinage. Et donc il nous a transmis en fait beaucoup de son savoir et de son expérience. Et donc au début on était vraiment dans l'apprentissage, et puis au fur et à mesure on s'est un peu fait confiance, et puis on a essayé des nouvelles techniques. Et en fait ce qu'on construit nous chez nous, c'est une ferme écologique et un tiers lieu écologique aussi, mais le tout est expérimental. C'est-à-dire que vraiment, on ne s'interdit pas de faire des expériences, on ne s'interdit pas... Alors non, on ne travaille vraiment pas avec la chimie de synthèse, mais on essaye plein de techniques différentes, et on se rend compte qu'il n'y a pas une bonne solution, il y en a plein. Et nous, ce qu'on voudrait proposer, en tout cas, c'est quand on ouvrira au public, on voudrait que les gens qui viennent puissent repartir chacun avec des outils pour opérer le changement chez eux, quels que soient leurs moyens, quels que soient les espaces verts auxquels ils ont accès. Donc il y a des techniques qui sont très bonnes pour des maraîchers, mais qui vont être moins bien pour des particuliers. Il y a des techniques qui sont excellentes pour les particuliers et qui vont être moins efficaces pour des maraîchers, par exemple. Donc voilà, on essaye vraiment de... Et c'est passionnant. Et c'est vrai que je suis un peu frustrée parce que je suis encore énormément sur les plateaux. Et j'en suis très heureuse. J'ai beaucoup de chance de travailler comme je travaille en tant que comédienne. Mais c'est vrai que, du coup, moi, j'ai encore un peu les pieds et la tête dans le monde que j'ai quitté, qu'on a quitté, en tout cas. Mais c'est bien parce que, en fait, on va pas faire sans les villes. On va pas faire... tout le monde va pas venir habiter à la campagne. Il faut vraiment qu'on arrive à créer des passerelles entre la ville et la campagne. Et donc... ça reste très intéressant pour moi de continuer ce travail d'actrice. Après, c'est sûr que j'ai des journées, j'ai un emploi du temps qui est extrêmement dense. Mais après, je m'organise. Par exemple, sur Clem, on a vu que, de toute façon, que ce soit pour moi ou pour le reste de l'équipe, les journées étaient extrêmement denses et que ça dure 6 mois, le tournage. Donc, pendant 6 mois, on n'avait pas de vie, en fait. On ne faisait que travailler, mais impossible d'aller chez le médecin, de prendre un rendez-vous à la banque. Moi, habitant en Bretagne, il était plus possible pour moi de ne pas avoir 3 jours de week-end parce que sinon, je passais tout mon week-end dans les transports. Donc on a décidé de travailler plus que 4 jours par semaine. Donc, ça étend un petit peu la période de tournage, mais ça permet à tout le monde, en fait, d'avoir une vie en dehors de son travail. Et notamment à moi de pouvoir... rentrer chez moi dans le sanctuaire dans lequel on habite et de pouvoir vraiment mettre les mains dans la terre et construire ce projet local avec tous les gens qui s'investissent dedans, parce qu'on a beaucoup de chance, on a plein de monde très enthousiaste qui se propose de nous soutenir et de venir nous aider et donc c'est un projet qui est hyper vivant, solidaire et joyeux.
Donc vous avez du renfort pour vous aider aussi. Justement, donc vous voulez ouvrir cette ferme aussi, je pense, au public, vous venez de le dire. Oui. Ouvrir aussi une boutique de producteurs. Enfin, du coup, ça va se faire quand, cette ouverture au public?
Alors là, ça fait déjà 2 jeudis qu'on ouvre la ferme et que donc, les gens peuvent venir acheter nos fruits et nos légumes à la ferme. Donc c'était trop bien, en plus c'était pendant les vacances, donc les enfants participaient à remplir les paniers et voilà, c'était très familial, c'était chouette. On va ouvrir la boutique là dans le mois qui vient. Et puis le bar, on met aussi en place un bar associatif et citoyen qui lui va ouvrir courant l'année prochaine. Et puis on va aussi ouvrir un centre de soins de médecine douce et alternative, et dans lequel on va aussi proposer plein d'ateliers pour justement apprendre la permaculture, apprendre le zéro déchet, apprendre la faune et la flore endémiques. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de prendre soin du vivant, donc de nous, notre famille, et de tout le vivant qui nous entoure, à savoir les animaux, les plantes, et puis ben, les autres humains qui constituent notre société, quoi.
Est-ce que ce retour à la Terre, il vous a changé ? Est-ce que parfois, vous avez aussi regretté cette décision ? Parce que c'est du travail, parce que c'est pas facile, on imagine, et parce que vous n'avez pas choisi la facilité ?
Jamais. Pas une seconde, en fait. Parce que, bien sûr, la vie n'est pas facile. Et pour moi, c'est même très important que mes enfants, par exemple, en aient conscience dès maintenant. La vie, c'est difficile. Il faut être un guerrier pour avancer dans la vie. Et en même temps, on prône vraiment des... Enfin, on essaye d'expliquer à nos enfants que c'est un combat guerrier, mais rempli de bienveillance, de joie. Que, en fait, ça, à quoi ça sert de vivre si c'est pas pour essayer de trouver le bonheur partout où il se présente et le vivre et se consacrer à l'instant présent vraiment pour profiter de la chance qu'on a. Et aussi, c'est amusant parce que pendant ces 5 années où on a cherché, j'avais tendance à être un peu extrême. On avait tendance à être un peu extrême dans ce qu'on voulait, dans le changement qu'on voulait et à rejeter en bloc des alternatives qui ne seraient pas uniquement tournées vers moins de déchets et une écologie totale. Et en fait, l'expérience de notre lieu nous a montré que aussi, il faut savoir mettre de l'eau dans son vin, donc ça... pas à n'importe quel prix, évidemment, mais que tout prend du temps, que pour nous intégrer les bons réflexes, ça prend du temps, que pour changer, tout prend du temps, et la nature prend le temps, vraiment, de s'endormir pendant l'hiver, de se réveiller au printemps, de faire des fruits en été. Et donc, en fait, d'être au contact de la nature comme ça, ça nous a aidé à être beaucoup plus paisibles. Et... ouais, vraiment. Hmm. Donc non, aucun regret, aucun.
Quel conseil, d'ailleurs, vous donneriez aux personnes qui ont envie de suivre votre chemin, hein, mais qui n'osent pas vraiment sauter le pas ?
Moi, ce que je pourrais dire, c'est n'ayez pas peur de lâcher le bord de la piscine. Si vous vous sentez dans une situation inconfortable, il ne faut pas avoir peur du changement. Mais en même temps, il faut, à mon avis, essayer de se lancer des défis qui sont à notre portée. Parce que si on se lance un défi trop ambitieux, on risque de ne pas l'atteindre et de se décourager. Donc il faut vraiment essayer de se fixer un objectif, par exemple moins de déchets ou aller chercher ses fruits et ses légumes chez un producteur local. Il y a plein de petits gestes qu'on peut faire et vraiment essayer de... ou faire ses produits, ménager soi-même. Essayer de trouver quelque chose qui nous intéresse, parce que c'est pas la peine d'aller à contre-cœur non plus. Il faut trouver quelque chose qui nous intéresse, qui est un objectif atteignable, et se lancer des défis comme ça. Et vous allez voir qu'on est bien plus capable qu'on ne croit de changer, et que ça rend vraiment heureux, parce qu'on se sent... en pleine possession de ses moyens, on se dit qu'on a du pouvoir, qu'on est actif, qu'on voit les choses changer concrètement. Donc si on les voit à petite échelle, pourquoi ça changerait pas à grande échelle au final? J'ai envie de dire aux gens, faites-vous confiance, soyez patients. Nous, par exemple, les 2 premières années, ça fait un peu plus de 2 ans qu'on est là, et pendant presque 2 ans, ça a été hyper dur administrativement. On n'était vraiment pas soutenus du tout. On nous opposait des noms à chaque demande qu'on faisait et parfois c'était absolument injustifié et injustifiable. Et c'était très décourageant. Mais en même temps, on savait que ce pourquoi on se battait était juste et on partageait avec les autres. On allait aux réunions, on allait discuter sur des forums, avec des gens et on s'est rendu compte qu'on n'était pas seul. Et qu'il faut y croire et qu'il y a plein de gens qui peuvent nous aider qu'on soupçonnerait pas et donc vraiment essayer de parler au maximum de nos envies et de ce qu'on essaye de mettre en place et les choses finissent toujours par se débloquer.
Comment est-ce que vous vivez le grand écart avec votre métier aussi, finalement son côté peut-être un peu paillette parfois, vous le dites, vous avez des journées très chargées avec beaucoup de promos, etc. Comment vous vivez bien ça?
C'est pas toujours facile, ça c'est clair. Après, moi, j'ai l'impression que je suis beaucoup plus heureuse dès lors que je me sens cohérente. Du coup, je vais pas réussir à faire des miracles, mais je vais au moins discuter avec la production, par exemple, en disant, ce serait bien qu'on fasse attention à notre impact écologique. En général, en plus, les gens sont quand même très réceptifs de plus en plus. Voilà, moi j'estime que je passe beaucoup de temps au travail, donc il faut que dans mon travail aussi, je participe à la construction du monde de demain. Donc on essaye de, par plein de biais, donc on a sur le tournage par exemple plein de gestes bio, écolo, de recyclage, de consommation qui sont vraiment intéressants. Et puis en plus, dans le récit de Clem, on essaye vraiment... aussi de parler de ces sujets-là et que nos personnages les vivent à leur façon et vivent les dilemmes qu'on peut vivre tous. Et donc moi, ça m'apaise aussi, ça me permet de avoir vraiment l'impression de faire quelque chose qui a du sens dans mon travail. Et ça, je vous le conseille à tous, hein, parce que tout le monde peut, en entreprise, essayer de faire changer les choses ou dans sa profession... c'est pas toujours facile, hein, c'est sûr, quand on travaille pour Total, par exemple, c'est pas simple. Mais il y a quand même toujours des choses à faire. Et d'ailleurs, le secteur privé, je pense que la transition ne pourra pas se faire sans l'aide du secteur privé, qui est aujourd'hui extrêmement puissant, parfois plus puissant que nos gouvernements. Et on a besoin absolument qu'il s'empare de ce combat-là. Et qu'au lieu de dissimuler ce qu'ils font de pas bien, mettre en valeur les bonnes initiatives qu'ils pourraient mettre en place et puis aller plus loin, toujours essayer d'aller plus loin et de financer aussi, il y a beaucoup d'argent dans le secteur privé, donc financer des associations, des initiatives qui vont vers la protection du vivant.
Parce qu'on s'était rencontrés en fait l'année dernière lors d'une conférence du Média Green Club et je me souviens que vous étiez intervenu justement pour parler de votre métier, de l'empreinte carbone des tournages. On sait que ça progresse aussi à ce niveau-là, qu'il y a des prises de conscience et qu'il y a aussi des tournages qui se font en zéro carbone, zéro déchet, qu'il y a aussi des entreprises qui sont spécialisées d'ailleurs pour accompagner ces tournages. Est-ce que vous, donc du coup, vous avez réussi à un peu faire quelque chose sur le tournage de Clem vous-même en fait?
Ah bah oui, encore une fois, hein, on travaille qu'avec des véhicules électriques. Alors bien sûr, on peut dire tout ce qu'on veut sur la voiture électrique et en effet, c'est sûrement très polluant, mais en attendant, on n'émet plus de particules fines. Encore une fois, on a une cantine bio, on recycle les masques. Sachez que c'est recyclable, qu'il y a des entreprises qui s'en occupent et donc il faut les solliciter. On travaille plus avec des groupes électrogènes, c'est vrai que je trouve, et c'est quand on s'était vu, c'était un peu un cri désespéré que j'avais lancé, parce que quand j'essayais de sensibiliser, que ce soit les chaînes, les productions, les diffuseurs, tout le monde était d'accord sur le fait qu'il fallait faire quelque chose, mais personne n'était prêt vraiment à mettre la main à la poche, en tout cas tant que c'était pas décidé de façon collective. Et moi j'estime que vraiment tout le monde doit faire sa part et à la hauteur de ses moyens. Donc avec la crise du Covid, je reconnais que là ça a été un peu compliqué. Ça a beaucoup compliqué les choses écologiquement. Et je pense que d'ailleurs, tous ces consommables qu'on utilise une fois par rapport au Covid, justement pour se protéger du Covid, c'est quelque chose de terrible. Malheureusement, mais bon, on répond comme on peut aux crises qu'on affronte. Je pense qu'il ne va pas falloir en tout cas s'endormir sur cette crise du Covid pour se donner une bonne excuse pour ne pas faire plus et faire mieux. L'urgence est là, l'effondrement a commencé, 60% des espèces sauvages ont disparu en quelques décennies, 80% des insectes en même pas 30 ans. On est vraiment sur un effondrement réel qui nous touche directement et la crise du Covid en est la preuve. Donc là, je pense qu'il va falloir vraiment avoir une vision à plus long terme et mettre des choses en place très fortes.
Alors, on parlait des tournages et vous avez aussi parlé de récits. Hein. On parle beaucoup de nouveaux récits qui doivent accompagner cette période de transition, des récits qui doivent s'emparer de ces enjeux pour les intégrer dans le réel des gens finalement. Vous les voyez comment ces nouveaux récits? Quelle forme, quelle impulsion, quel rôle? Vous disiez que vous-même finalement, sur Clem, vous pouviez aussi impulser des choses dans le scénario.
Ben oui, bien sûr. Ben là, par exemple, dans la saison qu'on voit en ce moment, on voit Clem on la voit pas au magasin acheter en vrac, mais tous ses produits sont dans des bocaux. Elle jette ses épluchures dans un compost. On voit qu'il y a quand même du changement. Et il n'y a pas que dans Clem, il y a dans d'autres fictions qu'on commence à semer plein de graines. Voilà, c'est important. Le récit, depuis le début de l'histoire de l'humanité, nous a inspiré. On s'est construit par des histoires qu'on nous a contées. Et ces histoires-là ne sont pas juste des histoires pour endormir les enfants le soir. Ce sont des histoires qui sont inspirantes, qui nous poussent à nous dépasser, qui nous servent de modèle. Et donc, il n'y a pas de raison qu'on ne mette pas ces récits au service d'un monde plus juste, meilleur, plus sain. Voilà, pour s'inspirer et se dire que c'est possible et pour se donner la force de se dépasser.
Alors, vous êtes très populaire, hein, vous touchez vraiment le grand public. Et est-ce que ce grand public vous suit également dans vos engagements? Vous avez dit, en tout cas, je l'ai entendu dans une de vos interventions, quand je fais un post écologique, je perds 2000 followers à chaque fois. C'est fou, en fait. Ça veut dire que votre public, il vous suit pas à tous les coups, c'est ça? Ça leur plaît pas?
Ah non! Bah non, mon public, à la base, il me suit parce qu'il me suit dans Clem. Et Clem n'a pas toujours été écolo. Et même quand elle l'était, c'était pas toute la série qui l'était. Parce que Clem, elle est partie faire du maraîchage bio il y a plusieurs années de ça déjà. Donc voilà, même si c'était des thèmes dont on pouvait parler, les gens me suivaient pas principalement pour ça. Et donc ça les a beaucoup perturbés au début. Au début parce que aussi... On était vraiment pas nombreux en tant qu'artistes à oser parler de sujets qui nous touchent et qui ne touchent pas notre métier en particulier. Et c'est vrai que c'était une vraie prise de risque. Et puis à l'époque, il y avait beaucoup de climato-sceptiques, alors que quand même maintenant, on est presque tous d'accord sur le fait qu'il y a une urgence. Mais voilà, du coup... Ça a été un peu difficile au début. C'est vrai que je perdais énormément de followers, parfois beaucoup plus que 2000 même. Et qu'on me disait, toi, t'es comédienne, t'as rien à dire de plus, contente-toi de faire des films et tais-toi. Mais en fait, ça a été un travail progressif, voilà, où j'ai pas lâché le morceau, je me suis pas laissée impressionner. Et surtout, j'ai essayé de parler avec ces gens qui remettaient en cause ce que je pouvais dire, pour leur montrer que c'était pas juste des phrases lancées comme ça, que vraiment c'était une conviction qui m'habitait et que j'avais envie de partager. Et au fur et à mesure, en fait, le dialogue s'est vraiment noué entre ma communauté et moi, et c'est devenu hyper intéressant. Et aujourd'hui, quand je fais un post écologique, je ne perds plus de followers, voire j'en gagne. Donc c'est chouette, tant mieux.
Oui, parce qu'en fait, vous, votre idée, c'est de mettre votre notoriété aussi au service de vos causes. Parce que vous pourriez très bien aussi le vivre sur un mode privé, hein, pas en parler, rester dans votre coin, finalement, vivons heureux, vivons cachés. Et ça pourrait continuer comme ça.
Ouais, c'est vrai. Mais quand on fait Clem, c'est un peu raté pour vivre caché. Donc, du coup, c'est vrai que
oui,
moi,
vous pourriez ne pas parler de votre vie en Bretagne. Oui. C'est votre vie privée. Après tout, ça n'intéresse. Enfin, voilà, ça pourrait ne pas figurer sur les réseaux sociaux.
Il y en a qui veulent parler de ma vie privée autant qu'ils parlent de ma vie privée écologique. Non, vraiment, j'ai toujours eu très peur de la notoriété et je me suis quand ça m'est tombé dessus avec Clem, je me suis dit il faut que tu en fasses quelque chose de positif et donc profites-en pour vraiment essayer de porter la voix de certains messages qui peuvent être difficiles à entendre et qui sont pas très audibles. Et en fait, ça m'a plu beaucoup parce que ça m'a apporté beaucoup de cohérence aussi. Et ça a montré une autre image de moi qui n'est pas seulement celui d'une comédienne de grande écoute. Enfin, je sais pas comment on dit, mais de...
Oui, bah c'est un peu ça quand même avec
la grande chaîne. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé que oui, la notoriété pour moi n'avait vraiment d'intérêt que pour mettre en valeur, essayer de mettre en valeur les causes qui me tiennent à cœur. Oui, c'est sûr.
Parfois, vous avez pu avoir des propos qui ont été mal interprétés, notamment quand vous parlez de votre anxiété par rapport à l'avenir. Vous avez dit notamment que vous n'étiez pas sûr que vos enfants atteignent leur majorité. Est-ce que vous avez eu l'occasion de rectifier ou alors de mieux expliquer ce que vous vouliez dire? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont interrogées après. Oui.
Il y a beaucoup de personnes que ça a choqué. Alors, c'est pas très cool de la part du journaliste qui m'a interviewé ce jour-là parce qu'il a coupé en fait ma réponse. C'est-à-dire que au début, en fait, c'est ça. Je disais que oui, je me levais le matin en me disant que je n'étais pas sûre que mes enfants atteignent leur majorité, mais que en fait, cette vision des choses m'a rendue paradoxalement plus heureuse parce que ça me permet vraiment de profiter de l'instant présent, de me concentrer sur les bonheurs simples qui s'offrent à nous, Et qu'en fait, on a jamais... Enfin, c'est quoi cette notion d'immortalité dans laquelle j'ai grandi, quasiment, où, en se disant que, voilà, grâce à l'innovation, grâce au progrès, on allait vaincre toutes les maladies et il n'y aurait plus de guerre et il y aurait de la démocratie partout et tout irait bien. Ben, non, en fait. Et jamais l'humanité, à part ces 50 dernières années, n'a vécu en se disant « tout va bien, on est immortel, il n'y a pas de danger ». Et pourtant, elle était peut-être plus malheureuse qu'aujourd'hui, je ne sais pas, peu importe. Le fait est que naturellement, il faut qu'on ait conscience que tout peut s'arrêter du jour au lendemain, en fait, tout simplement. Et c'est pas forcément lié à l'effondrement de notre société. C'est un fait. Tout peut s'arrêter du jour au lendemain.
C'est-à-dire, quand on dit tout peut s'arrêter du jour au lendemain.
C'est-à-dire, on peut mourir du jour au lendemain.
Oui, bien
sûr.
On
peut se faire écraser par une voiture. On peut. Enfin, peu importe, on peut avoir une maladie, on peut... Mmh. Et donc, du coup, moi, je pars vraiment du principe qu'il ne faut pas attendre d'être dans une situation catastrophique pour essayer de profiter de la vie et essayer de trouver le bonheur. Donc, c'est juste que j'ai l'impression de mettre, avec cette idée de ne pas savoir de quoi sera fait demain, d'avoir retrouvé une place juste dans le cycle de la Terre, en fait. Et que ça, contrairement à ce qu'on peut penser, ça ne m'a pas apporté de l'anxiété, mais ça m'a apaisée au contraire. Et ça m'a vraiment permis d'être plus heureuse. Mais bien sûr, je vais tout faire pour que mes enfants vivent le plus longtemps possible et le plus heureux possible, évidemment.
Bah oui, on imagine bien. Allez, venons-en à votre rôle avec On est prêt. On les a accueillis la saison dernière à Magali Payen, qui a d'ailleurs fondé le réseau, ainsi qu'un des influenceurs, Axel Latuada. On a également reçu Camille Etienne il n'y a pas très longtemps. C'est la jeune militante écologiste, autre porte-parole du réseau. Qu'est-ce que vous allez apporter, vous, à ce réseau? Quelle sera votre plus-value?
Je ne sais pas. mon côté un peu artiste qui... Voilà, moi, je vis pour les émotions et à travers les émotions. Et je pense que quand on partage de l'émotion avec les gens, on partage bien plus encore, en fait. Et donc, peut-être que, voilà, moi, je peux parler avec émotion de mon quotidien, de mon expérience de citoyenne lambda. Et puis aussi de la chance que j'ai de pouvoir construire, encore une fois, ce lieu à la campagne qui est merveilleux. Et de pouvoir parler à des gens qui seraient pas sensibles à ces questions-là parce que voilà ils regardent Clem mais qui s'en fichent du reste et en même temps essayer de faire des passerelles entre les mondes.
Oui, entre votre public peut-être et ces causes-là, des jeunes qui peut-être effectivement s'informent pas bien ou peut-être uniquement dans certains réseaux sociaux. Et donc, c'est vrai que vous pourriez peut-être leur apporter quelque chose. Quelle sera d'ailleurs la prochaine campagne à laquelle vous participerez avec On est prêt?
Alors, a priori, ce sera une campagne. Alors, il y a plusieurs choses. On va travailler sur la consommation. Justement, que j'appellerais moi consciente. Je pense qu'il faut vraiment avoir conscience de ce que l'on consomme et essayer de répondre à un besoin vraiment avant d'acheter quelque chose. Et puis, on va aussi parler justement de l'extinction de masse des animaux sauvages. Il faut agir vite là.
Voilà, donc des campagnes qu'on pourra découvrir évidemment sur les réseaux sociaux et dont vous ferez partie puisque vous êtes devenu porte-parole d'On est prêt, l'un des porte-parole d'On est prêt il n'y a pas très longtemps. Alors, c'est une tradition dans ce podcast, c'est la question surprise. Un ancien invité vous pose une question et pour vous, je ne vous cache pas que c'est Fanny Agostini que vous connaissez bien car elle vous a reçu en terre ferme, son émission sur Ushuaïa TV. Et vous avez d'ailleurs des points en commun avec elle, parce qu'elle a aussi quitté Paris pour s'installer dans une ferme en Auvergne. Alors, je retrouve sa question et on l'écoute ensemble.
Salut Lucie, c'est Fanny. J'espère que tu vas bien et que tu es bien dans la préparation du jardin et que ça avance bien au niveau de tes semis et de tes plantations. Je me demandais, est-ce qu'aujourd'hui, tu te considères plus maraîchère que comédienne? Et à quel moment la part de maraîchage prendra le plus de place dans ta vie, si ce n'est pas déjà le cas? Quelle est la part de temps accordé au maraîchage versus ton métier de comédienne? Et puis aussi, pourquoi c'est important pour toi d'aller vers une certaine forme d'autonomie alimentaire? Bye bye!
Ravie de l'entendre. Je vais avoir du mal à répondre à cette question parce que je passe plus de temps à être comédienne. Mais euh, Mais je suis tellement passionnée aussi par ce qui se passe chez moi à la ferme que je me sens un peu les deux. Mais concrètement, c'est pas moi qui fais pousser la plupart des légumes. Moi, je prête main forte dès que je peux, mais heureusement, tout ne repose pas sur moi, loin de là. Donc voilà, après, j'ai vraiment très envie de pouvoir m'y consacrer plus et j'ai hâte. Voilà, et pourquoi je tends vers plus d'autonomie, parce que je pense qu'on est dans une société qui tend justement à nous déresponsabiliser et à nous infantiliser un peu, et je trouve ça dommage. Je pense qu'on a tous des compétences incroyables et insoupçonnées, et que c'est important de les expérimenter et d'essayer et de pas avoir peur de se tromper. Et puis aussi, en fait, avec mon mari, au début, on cherchait vraiment l'autonomie pour notre famille et on se disait, bon, bah voilà, comme ça, justement, si la société s'effondre complètement, eh ben, on pourra s'en sortir. Et en fait, assez vite, on a compris que si c'était seulement nous, ça n'allait pas durer longtemps, notre autonomie, et qu'on allait devoir partager de gré ou de force avec tout le monde autour. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est que ce qu'on a réalisé, c'est qu'en fait, ce qu'il fallait, c'est que les territoires soient autonomes eux-mêmes et les territoires les plus vastes possibles, de façon à être beaucoup plus résilients, de pouvoir encaisser les chocs, de pouvoir les absorber, de pouvoir répondre aux crises et de pouvoir même accueillir tous les déplacés qui soient des réfugiés climatiques ou autres, parce que c'est en fait une grande partie du monde va devenir inhabitable prochainement. Donc il va falloir qu'on apprenne à vivre ensemble, c'est tout. Donc plus on aura un territoire qui sera autonome et plus ce sera facile et possible et dans un climat de paix. Donc vraiment, en fait, le projet qu'on fait nous à la ferme, il est parti d'une envie égoïste de nous être autonomes, mais en fait notre égoïsme il s'est propagé, on va dire, et on aimerait vraiment que ce soit tout le territoire qui le soit, et donc on voudrait montrer un exemple de micro-ferme qui fonctionne, qui est facile à mettre en place et qu'on peut lancer sur tout le territoire.
Clarisse, ça existe déjà, hein, des micro-fermes qui sont autonomes, qui fonctionnent bien. Il y en a plein. Et je pense d'ailleurs que vous avez même soutenu Ferme d'Avenir, qui soutient. C'est une des nombreuses associations qui soutient effectivement ces exploitations.
Bien sûr, mais c'est plus facile pour moi d'en parler en l'expérimentant par moi-même.
Oui, bien sûr.
Il y a un appel à lancer, qu'il y a quand même un agriculteur sur deux qui part à la retraite dans cette année et l'année prochaine. Donc on va vraiment manquer d'agriculteurs. Et en revanche, on estime qu'il faudrait au moins 300 000 micro-fermes pour rendre la France autonome en fruits et légumes. Donc vraiment, il y a de la place, quoi. Allez-y, courage.
Et tout à fait. Et surtout, dans les 10 prochaines années, il y a la moitié, effectivement, des fermiers, des exploitations qui seront à reprendre. Donc, effectivement, il faut faire très attention aussi à ce qui va se passer dans les 10 prochaines années. Vous avez raison de le mentionner. Lucie Lucas, je termine toujours ce podcast par cette interview dans l'interview. Et pour vous, ce sera l'interview du monde d'après. C'est parti. Tout d'abord, est-ce que vous l'aimez bien, cette expression du monde d'après?
Oui. Je l'aime bien c'est clair que en fait on s'est complètement trompé de chemin. J'estime qu'on s'est complètement trompé de chemin et que tout le système est à revoir. Qu'il faut pas un ministère de l'écologie mais un gouvernement écologique. On est tombé dans des aberrations en cherchant la croissance et le profit à tout prix. Il faut absolument remettre le bon sens dans notre système et donc vraiment tout changer. Donc ça va prendre du temps et voilà, mais c'est pour ça que j'aime bien ce terme, le monde d'après, parce qu'évidemment il ne ressemblera vraiment pas. Il y a vraiment une rupture qui se fait, même si j'aime pas ce mot, mais en tout cas un changement complet de direction.
Les qualités essentielles pour lancer un projet dans ce monde d'après?
Eh ben... les qualités essentielles, je pense, il faut de l'optimisme, il faut de la volonté, et surtout, il faut pas avoir peur de se mettre ensemble, de pas faire les choses tout seul, mais vraiment de proposer aux autres de nous accompagner. Et vraiment, plus on sera solidaire, plus on mutualisera les choses entre nous, et plus ce sera facile, et donc moins ce sera décourageant, et du coup, plus ce sera motivant.
Un artiste ou une personnalité du monde d'après que vous admirez ?
Ben, j'adore Camille, hein, Camille Etienne, de On est prêt, Cyril Dion, bien sûr. Dans les artistes, c'est bête, mais voilà, Trio, par exemple, c'est pas vraiment le monde d'après, et pourtant, j'ai réécouté des albums d'eux récemment, et c'est génial, enfin, vraiment, ils ont tout compris. Il y a plein de... C'est difficile de répondre comme ça, du tac au tac, parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui font de plus en plus de choses, et qui sont vraiment inspirants. Voilà, je pense qu'il faut les encourager, leur donner confiance. C'est difficile, hein, c'est difficile de parler d'écologie quand on ne maîtrise pas parfaitement le sujet, quand on est plein d'incohérences. Et évidemment que quand on est dans un milieu artistique et que ça marche pour nous, on est plein d'incohérences. Donc c'est très difficile d'assumer ça. Je pars du principe que personne n'est parfait et que c'est pas la peine de rentrer dans le jugement de l'autre, sinon on n'avance pas. Donc, il faut pas avoir peur de pointer du doigt les difficultés, les endroits où on peut faire beaucoup mieux ou autrement. Mais je pense qu'il faut vraiment pas avoir peur de dire on n'est pas là pour se juger, on est là pour avancer ensemble en fait.
Vous ne seriez jamais devenue ce que vous êtes si
j'avais pas fait Clem. Si j'étais pas devenue maman, si j'avais pas eu les parents que j'ai eus, tellement de choses.
Le temps est un bien précieux. Est-ce que vous parvenez à en avoir un peu pour vous de temps en temps ?
J'essaye. C'est pas facile. Il faut savoir s'entourer, se faire aider. Et pas hésiter à partager ses charges mentales, mais c'est difficile. Mais oui, heureusement que j'ai du temps pour moi de temps en temps. Mais c'est vrai que ça m'arrive souvent de dire j'ai hâte que la retraite arrive.
Ah oui, elle va pas arriver tout de suite, hein. On précise que vous n'avez que 34 ans.
Mais c'est dans cette idée, c'est dans cet espoir de pouvoir avoir plus de temps pour moi.
Alors, que dites-vous à celles et ceux qui vous écoutent dans ce podcast, qui ont envie d'agir ? Alors, pas spécialement sauter le pas et s'installer effectivement sur un territoire, mais qui ont envie d'agir, mais qui ne savent pas comment.
Alors, vraiment, encore une fois, n'oubliez jamais que vous avez beaucoup plus de pouvoir que vous ne pensez. Nous avons tous plus de pouvoir qu'on ne pense. Donc, par le vote, mais pas seulement. Par aussi, donc, encore une fois, moi je dis, quand on consomme, on vote. C'est-à-dire qu'on va financer directement une entreprise. Donc il faut choisir les entreprises qu'on va financer. Typiquement, Coca, par exemple, ça représente une pollution monstrueuse, c'est-à-dire 2 milliards de boissons par jour. C'est 100 milliards de bouteilles plastiques par an. Quand les cafés étaient ouverts, il y avait une table sur deux qui avait du Coca. Peut-être qu'il faudrait un petit peu diminuer cette consommation-là, par exemple, essayer de diminuer le plastique, essayer de diminuer les déchets, mais surtout avoir conscience. Voilà. Qu'est-ce que j'achète ? Est-ce que ça répond à un besoin pour me rendre heureux ? Et combien ça va coûter à la planète et à l'humain et au vivant ? Alors, on n'a pas les réponses sur tout, hein. Il y a, par exemple, pour la mode, il y a le We Dress Fair, dont je parle souvent sur mes réseaux, et c'est une page Instagram qui décrypte toutes les marques et qui vous donne les points positifs, les points à améliorer et qui aide vraiment à y voir plus clair. Et donc il faut pas hésiter à se servir d'outils comme ça, parce qu'évidemment on peut pas faire des recherches très poussées, très approfondies sur tous les objets qu'on consomme. Essayer d'être le plus conscient possible. Moi, par exemple, je ne prends plus l'avion depuis 4 ans. Je ne l'ai pas pris depuis 4 ans. Parce qu'à chaque fois que je me suis posé la question, est-ce que le prix en vaut la chandelle ? J'ai répondu non. Mais peut-être qu'un jour, je répondrai oui. Il ne faut pas non plus être extrême, je veux dire. Oui. Vraiment, du moment qu'on est conscient de ce qu'on fait et qu'on essaye d'aller vers du mieux et surtout d'être plus cohérent avec soi-même, en fait, finalement... Parce qu'il y a plein de gens qui ont peur de la maladie et de la mort, mais qui mangent des choses pleines de pesticides et d'antibiotiques. Donc, en fait, c'est pas logique. Il faut essayer vraiment de chercher une cohérence personnelle et commencer, encore une fois, par des petits gestes faciles à réussir.
Merci beaucoup en tout cas Lucie Lucas. On peut avoir de vos nouvelles sur les réseaux sociaux, Instagram notamment, et puis bien sûr avec On est prêt et évidemment sur Clem, sur TF1. Merci beaucoup Lucie Lucas d'avoir participé à Impact Positif et surtout très très bonne route à vous.
Ben, merci à vous aussi, merci de nous avoir écoutés et à très bientôt j'espère.
À bientôt. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Merci à David Führer pour la réalisation. Merci à Jean-François Bompas pour le mixage. Merci à tous les auditeurs qui me font des retours. Cela me fait plaisir, cela m'encourage bien sûr. N'hésitez pas, je vous lis, même si ce n'est pas facile de répondre à tout le monde. Impact Positif s'est développé, en plus des réseaux sociaux, Twitter et Instagram. Vous nous retrouvez sur lci.fr, sur la page dédiée au podcast, mais aussi sur la page Impact Positif, où vous attendent tous les contenus à Impact du groupe. Des éditos ainsi que les interviews tirées du podcast. J'espère que cet épisode avec Lucie Lucas vous a plu. À très vite pour un nouveau numéro d'Impact Positif.